repenser la consommation. Les podcasts du Cercle de l'Obsoco en partenariat avec Moustique The Audio Agency et The Conversation. Dominique Roux, professeur de marketing à l'Université de Reims.
Bien, merci Nathalie. Alors effectivement, quand on a débattu des sujets que nous évoquait cette façon de repenser la consommation, le mot « bonne consommation » est revenu assez vite et il m'a particulièrement gratté. Donc, en fait, je voudrais repartir finalement du même point de départ qui était celui d'Olivier Badaud tout à l'heure, mais que je ne traiterai pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que je le rejoins avec un titre un peu clin d'œil qui est « Parce que vous le valez bien ». Et Dieu seul sait si nous avons entendu ces slogans qui nous disent de nous gouverner de façon hédoniste. Et du coup, la question que je pose d'emblée, brutalement, c'est finalement la consommation aurait-elle quelque chose à voir avec la morale ou pas ? On a le sentiment que quand on est dans un acte aussi privé, qui a le droit de se mêler de savoir ce que j'achète et pourquoi ? À part les algorithmes, peut-être. Finalement, pourquoi poserait-on cette question de la morale ou de la bonne consommation ? Alors, je prendrai juste une toute petite définition de la morale, pour qu'on resitue quand même ce que c'est, que j'emprunte à Paul Ricoeur, et qui dit, au fond, c'est une série de normes, d'interdictions, d'obligations à caractère universel et contraignant. Ça ne colle pas avec « parce que vous le valez bien », vous voyez ? Donc, la première question, c'est finalement, est-ce que la morale a quelque chose à voir avec la consommation. Et au fond, on l'a entendu avec l'introduction ou le propos d'Olivier, mais aussi avec le propos de Christophe, c'est celui du prix. Est-ce que ce n'est pas parce que le marché nous invite perpétuellement à calculer, à demander tout pour rien, que nous aurions une déliaison en fait, entre cette question de la morale et cette question de la consommation ? Est-ce que ce n'est pas parce que nous passons notre temps à calculer ? Donc c'est une question que je poserai en deuxième temps. Et au fond, à ces deux premières questions, je vais répondre par la négative. Non, il n'y a pas de morale ou de consommation sans morale. Et non, le calcul n'est pas une opération différente de celui que l'on emploiera dans le terme « valuer », c'est-à-dire ce qu'il vaut, ce à quoi on accorde de la valeur. Bien, donc si la morale sature, selon moi, je vais essayer de le montrer en trois pas rapides, sature la consommation et que calculer et évaluer ce qui vaut réellement dans la vie, c'est la même chose, alors pourquoi avons-nous, en tant que consommateurs, autant de mal à bien calculer, c'est-à-dire à bien consommer ? Alors, je suis un peu la voix de la consommation du côté du consommateur. Je me positionne assez clairement pour une bonne raison, c'est que j'ai travaillé longtemps sur la résistance des consommateurs, puis sur la protection des consommateurs. Et du coup, évidemment, c'est plutôt sous cet angle-là, avec ce prisme-là, que je m'interroge. Alors, la consommation est-elle morale ? Première question que je pose. Alors, j'ai dit oui, la consommation est morale en tout, pour tout, tout le temps. Alors, je reprends juste un exemple historique. Je vais faire trois pas dans trois siècles. Je suis désolée du raccourci, c'est un peu court en 15 minutes, mais je n'ai pas trop le choix. Prenons le luxe au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, le luxe, c'est mal. C'est mal. C'est l'oisiveté, c'est ceux qui possèdent des richesses et qui ne font rien. C'est la mollesse et c'est surtout l'injustice. Au XVIIIe siècle, le luxe change de sens en termes ou change de polarité morale. Et pas dans la bouche de n'importe qui, de Voltaire, de Montesquieu, de Mandeville, donc ce ne sont pas des ahuris. Le luxe devient moral. Pourquoi ? Donc on voit bien qu'il y en a de la morale là. Il devient moral parce qu'il apporte au pays de la richesse et donc aussi à ses populations. Donc on lui trouve des vertus. Sautons au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'on trouve par exemple en termes d'action sociale ? Est-ce qu'on donne de l'argent aux pauvres ? Comme on le fait aujourd'hui en versant un revenu universel, etc. Non. On leur donne des marchandises ou des biens ou de la nourriture. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a peur qu'ils dépensent immoralement l'argent qu'on leur donnerait. Bon. Dans les manuels d'éducation ménagère de nos grands-mères, si vous ouvrez ça un jour, si vous tombez dans une brocante sur ce genre d'ouvrage, vous verrez des leçons du bien consommé et de la bonne gestion budgétaire à toutes les pages. Donc on est bien intégralement dans cette idée de la bonne consommation. Alors pourquoi on a l'impression que la morale se sépare de cette idée de consommation ? Quand est-ce que se fait ce hiatus ? Eh bien, je pense que ça a été esquissé au fond dans les différentes présentations. Et je vais essayer de reposer juste un ou deux points historiques là encore pour essayer de donner un peu de densité à une possible réponse. Au fond, Je cherche le mot qui me convient le mieux, là. Le vrai problème commence quand l'économie se développe au XVIIIe siècle, en réalité. Pourquoi le luxe devient vertueux ? Eh bien, parce que les souverains voient dans l'enrichissement du pays, donc dans le calcul, et on va y venir juste après, ils y voient des sources de vertus collectives, d'intérêts collectifs. Donc, c'est le développement de l'économie au XVIIIe siècle qui va en fait remplacer Dieu et la religion, qui sert bien moins aux souverains en cas de disette que des vraies techniques pour savoir comment faire circuler des grains, comment fixer des prix et comment compenser des inégalités entre des populations qui ont et qui n'ont pas. Donc en fait, une petite, ça c'est Michel Foucault dans Naissance de la biopolitique, hein, une petite explication enfin, qui tient quand même sur un bouquin de 200 pages, c'est quand même de montrer que le développement de l'économie va séparer, hein, va donner cette illusion au fond que la morale se sépare de la consommation, parce qu'on n'a plus besoin ni de Dieu ni de la religion pour gouverner des populations. Du coup, ça introduit la notion du calcul. Ce qui devient très important, c'est de calculer. Et du coup, là, ça m'envoie vers ma deuxième question. Est-ce que le calcul, finalement, sépare définitivement la morale de la consommation. Alors, il y a aussi un principe économique qu'il faut garder en tête et qui est très important, c'est l'auto-limitation de l'État, qui ne va que croissant. On ne cesse de continuer dans cette pensée libérale qui vient du 18e à nouveau et qui est que l'État ne doit pas intervenir dans la vie économique et dans le jeu du marché. Plus il intervient, plus c'est le bazar. Donc laissons le jeu du marché, laissons les gens calculer, et puis tout se passera bien. Donc, deuxième question, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a du calcul partout dans ce qui vaut collectivement pour la vie économique que nous avons une séparation, une déliaison entre morale et consommation ? Alors là encore, je dirais non. Enfin, calculer et évaluer, c'est strictement la même chose. Pourquoi avons-nous cette impression que calculer et évaluer, donner de la valeur, ça n'est pas la même chose ? Eh bien, tout simplement parce que nous prenons un tiers de la définition du mot calculer ou du verbe calculer. Donc, je vais reprendre le Larousse. Hein, je suis avec mes petites définitions du Larousse. Nous, on a appris à l'école que c'était faire des opérations sur des grandeurs mesurables. Voilà, c'est tout ce qu'on a en tête et c'est ce qui nous est resté. Mais en réalité, calculer, c'est aussi évaluer quelque chose, dit Larousse, l'apprécier, le déterminer par la pensée ou le raisonnement. Je calcule mes chances de vous convaincre. C'est aussi prévoir, préparer, combiner, parfois même jusqu'à la parcimonie, quand je dis je calcule mon effort, je m'économise. Donc calculer, ce n'est pas simplement faire des opérations mathématiques ou arithmétiques sur des grandeurs. C'est aussi, et là je reprends une magnifique définition qu'a donnée la sociologie économique sur ce plan, c'est le calcul commence en établissant des distinctions entre des choses ou des états du monde. Bien, donc je peux établir des distinctions entre grandeurs mesurables, je peux aussi faire rentrer dans cette distinction des états du monde des grandeurs qui ne sont pas convertibles immédiatement en éléments économiques ou arithmétiques. Alors mettons en regard de cette définition, hein, donc établir des distinctions entre des choses ou des états du monde, la façon dont une théoricienne de la consommation, une des premières, qui s'appelle Hazelkirk, dit en 1923. Elle dit « Le problème de la consommation, à la fois comme processus individuel quotidien et comme processus économique collectif, est fondamentalement un problème de choix, de sélection entre des valeurs. » Donc elle dit la même chose que la sociologie économique contemporaine. Et on ne peut pas dire que c'est autre chose qu'un problème de morale qu'elle définit. Alors, cette réalité de la morale calcul-valuation, qui est pour moi la même chose, on la voit partout. Enrico Colla l'a illustré, je ne sais plus où il est là, l'approche de la responsabilité sociale, d'une part, du côté des entreprises, mais aussi de la consommation durable de l'autre. Je prends juste un exemple aussi. Quand un consommateur refuse d'acheter Danone parce que l'entreprise a licencié, a fermé une usine, donc licencie des salariés, c'est pas un problème de goût de biscuit ou de prix du biscuit. Hein, c'est que mon consommateur de biscuits, il est concerné par des valeurs sociales ou de solidarité sociale qu'il exprime à travers son refus d'acheter. On en a partout des exemples de ce type. Les cosmétiques qui disent ne pas faire de tests sur les animaux sont bien choisies parce que justement elles valuent ou elles mettent en tout cas dans leur offre commerciale une valeur, une grandeur que les consommateurs sont prêts à payer. Bon, et il y en a à foison. Alors, la question à laquelle je viens, c'est la troisième et dernière, c'est pourquoi avons-nous autant de difficultés en tant que consommateurs ? Pourquoi est-il si difficile de bien calculer ou bien consommer ? Donc, je vais dégager, en tout cas, de ce débat, deux positions qui me paraissent totalement stériles. La première, qui est assez connue du côté de l'entreprise, qui est de dire les consommateurs sont volatiles, sont ingérables, unmanageable, comme disait Gabriel Elang en 95. Donc, en clair, on peut rien en faire. Hein, c'est plutôt des empêcheurs de tourner en rond. Bien sûr que non. Et Dominique Desjeux l'a rappelé, le consommateur, c'est quelqu'un qui est sous contrainte et qui est souvent en situation de choix situé. Hein, par exemple, on va trouver pas normal qu'il adore le Vélib, hein, mais voyez, le jour où il pleut des hallebardes et qu'il a un entretien d'embauche, c'est vachement moins pratique de prendre un vélo que de prendre un transport en commun, par exemple. Hein. Donc ça, j'évacue. De l'autre côté, j'évacue aussi le propos qui consisterait symétriquement à dire finalement, les entreprises, c'est difficile de consommer parce que les entreprises ne sont pas elles-mêmes, il l'a évoqué tout à l'heure, ne sont pas elles-mêmes morales dans leur façon de faire et que peut-être, finalement, il faudrait faire le procès de tout le monde sous prétexte que certaines sont irresponsables, font du greenwashing ou prennent des engagements de RSE par-dessus la jambe. Donc c'est pas du tout là-dessus que je m'en vais. C'est sur trois types de difficultés qui me paraissent assez insurmontables au fond dans nos problèmes de calculation. Première difficulté, c'est l'impossibilité du tout moral. Ce que j'appelle par là l'impossibilité du tout moral, c'est quand on veut bien consommer, on ne veut transiger sur rien. En clair, on demande à faire des choix qui, à un instant T, rendent des propositions ou des grandeurs ou des valeurs morales souvent inconciliables dans le même choix ou la même décision. Je donne un exemple. Je suis une écologiste radicale, par exemple, et je décide de ne plus avoir de voiture. Très bien. Si nous étions tous à faire le même calcul ou à valuer cette dimension-là au même moment, de la même manière, l'industrie économique automobile s'effondre. Voilà, nous ne pouvons pas concilier tous au même moment de faire un choix collectif qui, évidemment, va créer des problèmes en termes de solidarité sociale. Donc, au fond, ça renvoie, en l'occurrence, l'écologiste et le salarié dos à dos. Alors, la deuxième difficulté, qui est abyssale, à mon avis, c'est que le marché ne fournit pas de solutions satisfaisantes à certaines demandes ou exigences morales des consommateurs. Alors, je vais prendre un exemple qui existe aujourd'hui, mais avant qu'il existe, c'était bien l'équation qui a fait que cet exemple en est venu à se développer. Donc, on va appeler FM, hein, un monsieur qui, au fond, lui aussi, est assez écolo et qui voudrait aller voir sa sœur pendant les vacances de Noël en transport en commun. Voilà. Eh bien, les TGV sont complets et donc ils ne trouvent pas de place. Le covoiturage, à l'époque, n'est pas organisé. Et FM, vous aurez reconnu, Frédéric Mazzella, celui qui a donc développé Blablacar, c'est-à-dire la solution morale qui lui convenait le mieux. Alors, on voit que les consommateurs eux-mêmes s'emparent d'un certain nombre de transformations des marchés hein, pour des raisons morales, qui satisfont davantage ce qu'ils cherchent. Quitte peut-être à recréer d'autres tensions morales après sur d'autres sujets. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des consommateurs ne sont pas des entrepreneurs de solutions aussi radicales et aussi ambitieuses que celles-là. Le résultat, c'est qu'une partie d'entre eux, et là, pour le coup, c'est bien méchant de recherche, se détournent de la consommation parce qu'ils ne trouvent pas de réponse morale satisfaisante. Alors, ils se détournent soit en déconsommant, soit en s'orientant vers des modes alternatifs, hein, celui-là, enfin Blablacar en est un, soit en autoproduisant, soit en échangeant entre soi. Donc ça peut porter autant sur la production que sur les systèmes de distribution qu'ils essaient de recréer d'une autre manière ou avec d'autres acteurs. Ça, c'était donc le deuxième problème. Passons au troisième, qui est non moins abyssal. L'absence de connaissances informées du consommateur. Enrico y a fait allusion. Et là encore, on pourrait dire il n'a qu'à lire les étiquettes. Hein. Il passe en fait entre 25 et 100 millisecondes à lire une étiquette alimentaire. C'est une étude qui a été faite dans un projet européen qui s'appelle Flabel sur 37 000 produits alimentaires. 25 à 100 millisecondes. Bon, c'est bien de lui jeter la pierre, mais s'il faut qu'il passe sa journée dans un supermarché pour regarder toutes les étiquettes auxquelles il ne comprend rien, évidemment, ça va, on sent bien qu'il y a une petite limite à la préconisation. Alors, ce n'est pas le seul problème qu'il y a derrière cette histoire de connaissances informées. Et là, j'arrive sur des choses un petit peu plus désagréables, probablement pour les offreurs. C'est que les offres, ils sont cadrées. Hein. Il fait l'objet de ce qu'on appelle des effets de cadrage. On connaît ça en marketing. C'est-à-dire une façon de lui présenter l'offre, évidemment, qui met l'accent sur certaines propositions morales, hein, et notamment le prix. On a beaucoup mis l'accent sur cette fameuse valeur-prix et sur le calcul. Mais surtout, en excluant de ce qu'on lui présente et du cadrage des externalités négatives dont on ne va pas lui parler. Alors je prends là encore un petit exemple qui me touche beaucoup. J'ai un poissonnier de supermarché qui se targue de m'offrir des prix hyper compétitifs toute l'année, donc parfait, il remplit mon tout pour rien. Et en plus, me dit-il, je peux faire vivre des populations de pêcheurs puisqu'il a son propre armement et que du coup, il satisfait, si je l'avais derrière, une exigence sociale qui est de faire vivre du monde. Par contre, ce qu'il oublie de me dire, c'est comment on peut estimer l'extinction des espèces puisqu'il fait du chalutage en eau profonde. Voilà. Alors l'enseigne en question s'est engagée pour 2025 à cesser ce chalutage en eau profonde. 2025, c'est en près de 10 ans. Et pour l'instant, sur l'étiquette, il y a bien marqué l'économie que je fais, il y a bien marqué le prix, il n'y a pas marqué l'effet de cette externalité négative dont il évite évidemment de me parler. L'autre opération de cadrage qu'on voit souvent aussi, c'est de créer de la distance émotionnelle. Alors, on crée beaucoup d'émotions, mais on crée aussi beaucoup de distance, justement pour le désengager de la morale. On ne va pas lui dire où sont fabriqués les produits. On ne va pas lui dire comment vivent et travaillent les gens qui fabriquent. Je vous invite à regarder une merveilleuse vidéo qui s'appelle Mardi Gras Made in China, et dans laquelle on voit un aller-retour entre des consommateurs américains et des ouvrières chinoises à qui on montre respectivement ce que l'un fait et ce que l'autre pense, etc. C'est magnifique. Donc on ne va pas lui dire comment les animaux sont traités. Vous voyez, et je prends une petite anecdote qui m'est arrivée dans un amphi que je surveillais il n'y a pas longtemps. Je me retrouve avec une collègue qui est juriste de l'environnement et qui me dit, parce qu'on avait juste le temps de se croiser dans les allées pour se dire tu travailles sur quoi, et elle me dit je regarde surtout les vêtements des gamins et les cols en fourrure qu'ils ont sur leur capuche. Ben, je lui dis chouette, mais c'est du synthétique, hein. Et ben, elle me dit non, c'est plein de poils d'animaux, ils ne le savent pas, moi non plus. Évidemment qu'on n'explique pas aux gamins en question comment sont traités les animaux, d'où viennent les poils qui sont sur sa capuche. Bon, donc voilà trois difficultés qui me paraissent importantes et qui, je vais donc conclure un peu à la manière de Woody Allen, c'est-à-dire, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer, est-ce que je peux vous en offrir deux mauvaises ? Alors, la première mauvaise nouvelle, c'est que finalement, on invite le consommateur, en fait, on le porte constamment ou continuellement vers l'acte de consommer, mais certainement pas vers deux choses essentielles. C'est ni la connaissance qu'il acquiert hein, par d'autres voies, par exemple par les médias. Je vous renvoie à Cache Investigation de lundi, c'était édifiant, hein, ou dimanche, je ne sais plus. Donc, on ne le porte pas vers la connaissance qui est totalement oblitérée des qualités ou des qualifications morales des produits, et encore moins de la définition choisi de ce qu'il voudrait voir dans ses produits. Et là, il y a une petite chose qui se dessine, c'est qu'il patron, hein, la marque du consommateur, qui entre dans cette voie-là avec encore, selon moi, encore des angles morts sur un certain nombre de qualifications morales qui ne sont pas forcément explicitées dans le produit. Trois propositions ou trois réflexions, je ne peux pas dire mieux en termes, parce que ce ne sont pas des préconisations, vous vous en doutez bien. La première, peut-être de réfléchir à la façon dont on présente au consommateur l'ordonnancement des valeurs qui sont incorporées au produit, et notamment celles qu'on ne lui montre pas, et néanmoins qui ne devraient pas, a priori, être exclues du choix. L'autre, c'est sur la transparence des processus de production, dont je viens de parler avec mes poils de bestiole, avec une tendance qui se dessine et qui méritera vraiment d'être regardée avec attention et surveillée le cas échéant. C'est ce qu'on appelle le flow sum. C'est très joli, le flow sum. C'est flow, le défaut en anglais, et sum, handsome, séduisant. Hein. On est séduisant en racontant qu'on n'est pas parfait. C'est ce que vous dit Mythique, venez avec vos imperfections. Hein. Ou McDo, voilà, venez comme vous êtes. Bien. Donc, ces entreprises qui commencent à dire, nous savons que moralement, tout n'est pas excellent ou tout n'est pas abouti, mais nous réfléchissons à des voies d'amélioration. Peut-être est-ce une façon de partager avec le consommateur aussi une idée d'amélioration continue. La troisième voie, et ce sera la dernière, c'est de rendre vérifiable, enfin de fournir au consommateur, ce qui n'a pas aujourd'hui, des modalités de vérifiabilité des allégations morales. Voilà, c'est probablement ce qui lui manque le plus. Et je terminerai en disant, en faisant écho sans doute à ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment, je pense, par Christophe Benavent, que tout cela a l'air de refermer le dialogue moral entre les entreprises et les consommateurs. Dans mon esprit, n'en est rien. Il me semble que c'est un problème éminemment politique au sens de gestion de la cité, au sens de choix que nous devons faire pour le bien commun et pour lequel il manque, et là je me retourne à nouveau vers les sociologues de l'économie comme Bruno Latour notamment, qui milite pour un parlement des choses. Les choses, c'est les sujets, c'est les problèmes que nous avons à régler. Il n'y a pas de parlement des choses, il n'y a pas d'instance de débat collectif sur les problèmes que nous avons à résoudre, sur les décisions qu'il faudrait prendre, et rapidement dans certains domaines, et surtout sur les risques collectifs qui y sont associés. Il n'y a pas non plus, à mon sens, suffisamment d'espace de représentation de l'ensemble des porte-paroles de la consommation. Alors certainement pas que les humains, c'est-à-dire les consommateurs et les firmes, mais aussi les non-humains et mes petits poissons dont je parlais tout à l'heure. Merci de votre attention.
Le colloque n'aurait pas eu lieu sans le soutien de l'ESCP Europe, du Master Métier des études du Conseil et de l'intervention de l'Université Paris Diderot et du groupe La Poste. Il est dédié à la mémoire de Michel Enochberg, professeur d'économie à Paris-Ouest et membre du cercle de l'Obsoco depuis sa création.